France Culture, il est toujours midi et demi. Et c'est l'heure du journal d'Antoine Mercier, ici en direct du Salon du Livre, Livre Paris. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Olivier Faure, futur premier secrétaire du Parti Socialiste. Le président du groupe à l'Assemblée arrive largement en tête du scrutin qui était organisé hier chez les militants. Stéphane Le Foll, arrivé second, annonce qu'il se retire. Dernier développement avec Stéphane Robert. La grève à la SNCF, il y aura 36 jours d'arrêt de travail prévu d'ici l'été. 2 jours par semaine en fait. En avril, mai et juin, précision avec Damien Triomphe. Moscou va riposter à Londres. Le Kremlin doit annoncer à son tour l'expulsion de diplomates britanniques aujourd'hui. La guerre en Syrie avec des civils qui continuent de fuir par dizaines de milliers l'enclave de la Ghouta orientale, presque entièrement reconquise maintenant par les forces du régime, suivie d'Éric Biégala. Et puis en France, la pression s'intensifie autour de la tournée en cours du chanteur Bertrand Cantat. La ministre de la Culture déclare ce matin qu'il a été jugé, qu'il a donc le droit de vivre sa vie. Compte rendu du débat en cours avec Camille Magnard. L'invité de la séquence interview, en direct donc du Salon du Livre à Paris, Gilles Boyer, conseiller auprès du Premier ministre. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivier Jasbert.
Réprouvé, banni, infréquentable, c'est le titre d'un recueil qui paraît aujourd'hui aux éditions Léo Cher. Qui pour faire le procès des écrivains? On en parlera avec nos invités, la directrice générale des éditions Léo Cher, Angie David, mais également avec la sociologue Gisèle Sapiro et le critique littéraire Pierre Assouline. Ils seront avec nous dans la deuxième et dernière partie de la Grande Table.
Olivier Jasbert, un genou sur la chaise. Merci, à tout à l'heure. Le nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste s'appelle donc Olivier Faure. C'est le président du groupe à l'Assemblée. Il arrive largement en tête de la consultation des militants qui était organisée hier. Un score proche de 50%, on n'a pas encore complètement les chiffres, je crois. Son suivant immédiat, Stéphane Le Foll, annonce qu'il se retire. C'est donc lui qui devrait, Olivier Faure, prendre en charge l'avenir du parti, Stéphane Robert. Peut-être les derniers résultats, c'est assez curieux. Depuis ce matin, on a des résultats par bribes. Est-ce qu'on a maintenant les résultats définitifs de ce scrutin?
Pas tout à fait, mais pratiquement, puisque c'est quasiment dépouillé. Oui, alors déjà un mot de la participation. Elle est conforme à ce qui était attendu. 40 000 socialistes environ ont participé à ce scrutin, ce qui confirme l'hécatombe qui s'est produite ces dernières années au sein des troupes militantes. Maintenant, les résultats en eux-mêmes, vous le disiez, Olivier Faure, député de Seine-et-Marne, président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée, tout près des 50%. Stéphane Le Foll, moitié moins, environ 25% des suffrages. Compte tenu de l'écart de voix, Le Foll se retire, laissant le champ libre à Olivier Faure pour le poste de premier secrétaire. Et puis pour l'anecdote, celui qui incarnait l'aile gauche, Emmanuel Morel, est à 18%. Luc Carvounas, l'ancien valsiste reconverti, termine loin dernière à seulement 7%.
Voilà, donc il y avait ces 4 candidats qu'on a eu l'occasion d'entendre dans cette édition ces dernières semaines. Olivier Faure, donc, nettement détaché, qui va devenir premier secrétaire. Pour quelle raison, finalement, cette victoire d'Olivier Faure?
Eh bien, parce qu'il incarne ce qui a toujours fait les premiers secrétaires au PS, la synthèse entre les différents courants, c'est-à-dire un courant médian, social-démocrate, susceptible de faire marcher ensemble l'aile gauche, plus égalitaire, et l'aile droite, plus libérale. Vous me direz, Stéphane Le Foll incarnait ça lui aussi, c'est vrai, sauf que Stéphane Le Foll, ancien ministre et ancien porte-parole du gouvernement précédent, est comptable en quelque sorte du quinquennat de François Hollande qui a entraîné l'effondrement du PS. Et donc c'était rédhibitoire, ce sera Olivier Faure, un homme de consensus qui est resté fidèle à Hollande et à son gouvernement lors du précédent quinquennat, jusqu'à l'affaire de la déchéance de nationalité que l'ancien président voulait inscrire dans la Constitution. Olivier Faure, qui à l'époque, un jour où se déroulaient les questions au gouvernement à l'Assemblée, avait raconté: quand je me suis levé ce matin, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, si tu votes ça, la déchéance de nationalité, est-ce que tu es encore socialiste? La réponse est apparue évidente, c'était non. Voilà, c'est ça Olivier Faure, quelqu'un qui incarne un socialisme de compromis tout en gardant une forme de colonne vertébrale, ce qui a été le socialisme depuis le congrès d'Épinay et la synthèse mitterrandienne. Un socialisme qui conserve en quelque sorte des attaches idéologiques, mais qui assume l'exercice du pouvoir. Et c'est ça qui est assez fascinant. Alors que le PS s'est effondré à 6%, que les militants sont partis en grande partie, le Parti Socialiste se comporte comme s'il était toujours le parti majoritaire à gauche. Et il élit un homme capable de faire la synthèse dans la perspective de faire l'union de la gauche pour accéder au pouvoir. Le problème, c'est que la gauche aujourd'hui est complètement dispersée. Olivier Faure apparaît comme une sorte de gardien du temple, avec un temple très, très abîmé, dont certains doivent même se demander si ça vaut le coup de le reconstruire. Si ça se fait, en tout cas, ce sera long et difficile.
Merci beaucoup Stéphane Robert. On salue l'invité de ce journal, Gilles Boyer. Bonjour. Vous êtes conseiller auprès du Premier ministre. Bon, vous n'avez pas parlé de politique dans ce journal, vous nous avez dit, mais politique et littérature peut-être. Alors j'avais envie de vous demander si le compromis et la colonne vertébrale, ça pouvait faire un titre peut-être de roman pour l'aventure socialiste, peut-être vous avez mieux à proposer.
Vous savez, dans un roman, le plus dur à trouver, c'est le titre.
Oui, alors justement.
Donc, je ne sais pas s'il faut commencer par là. Il faut respecter tous les processus démocratiques. Le Parti socialiste a traversé des heures difficiles, comme tous les partis traditionnels. L'avenir dira si c'est durable ou temporaire. En tout cas, il faut saluer ce processus démocratique.
Qu'il y a un problème avec votre courant maintenant, avec, disons, Emmanuel Macron plus Édouard Philippe, qui occupe toute la place centrale. Et si on veut exister, on est obligé quand même de se démarquer. C'est le cas pour LR, c'est le cas pour les socialistes. Même si on n'est pas forcément à 100% contre ce que vous faites, il y a une nécessité de démarcation qui vient de votre hégémonie quand même, j'allais dire idéologique.
Là, vous me demandez de résoudre les problèmes des autres. Oui. Il se trouve que je consacre beaucoup d'énergie à résoudre ce que nous avons, nous. Donc, en effet, aussi bien à gauche qu'à droite, on voit bien que les plus modérés des deux camps soutiennent en grande partie l'action du gouvernement. Là aussi, l'avenir dira si c'est un phénomène éphémère ou plus durable.
Alors, on s'achemine vers un mouvement de grève atypique à la SNCF. Ça sera une grève qui sera à la fois perlée, longue, dure, mais aussi par intermittence. Alors, il y aura 2 jours sur 5 de grève du 3 avril au 28 juin. Ça fait donc 2 jours par semaine pendant 3 mois. Damien Triomphe, bonjour.
Bonjour.
Il faut que vous nous expliquiez un petit peu plus précisément de quoi il s'agit. Pratiquement, comment ça va marcher et comment ça ne va pas marcher aussi.
Alors, comment ça va marcher? Ça commence le mardi 3 avril sur 2 jours. Donc, 3 et 4 avril, mouvement de grève. Et puis, tous les 5 jours, de nouveau, appel à la grève les 8 et 9 avril. Puis, les 13 et 14 avril, les 18 et 15. Et ainsi de suite jusqu'au 28 juin. Au total, ça fera 36 jours de grève, étalés sur 3 mois. Pas forcément les mêmes jours de la semaine, ça pourra tomber à cheval sur un week-end parfois. Tous les corps de métier de la SNCF sont concernés. Alors ces jours-là, est-ce qu'il y aura un service minimum assuré? Pour le moment, on ne parle pas de réquisition. Et ce matin, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, demande à la SNCF d'assurer au moins un train sur 3 en heure de pointe, sinon de rembourser les voyageurs.
Alors, c'est assez savant, finalement, comme construction. On n'a jamais eu ça, comme une grève, encore une fois, qui va s'étendre, mais qui ne sera pas permanente. Pourquoi ce choix des syndicats?
Parce que les syndicats parlent d'un conflit marathon. Le but, c'est de tenir le plus longtemps possible pour peser sur les négociations autour de la réforme ferroviaire. Donc, il faut être stratégique pour tenir longtemps. D'abord, ce système de grève perlée permet aux cheminots de ne pas perdre trop d'argent, puisqu'il permet des roulements. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui feront grève, puisque parfois, par exemple, ça tombera sur leur jour de repos. Donc, personne ne peut être théoriquement en grève les 36 jours pendant les 3 mois. Et puis, il y a la CFDT et l'UNSA dans l'intersyndicale, avec des militants qui, traditionnellement, ne sont pas des habitués de la grève dure, donc qui suivront plus facilement un mouvement souple. Et enfin, pour ménager l'opinion publique, parce qu'il ne faut pas leur rendre leur quotidien trop invivable, ne pas frapper trop fort. Vous aurez noté que le mouvement démarre le 3 avril, donc le week-end de Pâques est préservé. Et un sondage de début mars montre que près de 6 Français sur 10 trouvent injustifiée la mobilisation des syndicats sur ce dossier.
Alors, a priori, donc, on devrait avoir quand même, à partir du mois d'avril et rapidement, le calendrier des jours où il n'y aura pas de train et des jours où ça fonctionnera. En revanche, c'est ce qui permet de dire que les usagers sont tout de même informés et avertis. Le préavis des syndicats laisse 15 jours quand même pour discuter. La grève peut donc être évitée si des négociations avec le gouvernement produisent des résultats. C'est ce qu'affirme ce matin Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose dans ces 15 jours?
Et oui, déjà mercredi, l'intersyndicale se réunit de nouveau pour revoir éventuellement encore les modalités du mouvement. Il y a des discussions encore. Ce sera la veille du 22 mars, la journée d'action lancée auprès des fonctionnaires et des cheminots, prévue depuis longtemps, qui pourrait être aussi un test. Il faut voir ce que ça va donner. Il y a déjà quelques petits désaccords au sein de l'intersyndicale. Ils font front commun, certes, mais Sudrail ne veut pas vraiment d'une grève souple, plutôt une dure. Pour frapper vite, Sudrail annonce que dès le 4 avril, il organisera sans doute une assemblée générale pour savoir si ses militants reconduisent la grève dès le lendemain, donc ils feraient bande à part, ou s'ils suivront le calendrier envisagé par l'intersyndicale. Le gouvernement, dans tout ça, vous le disiez, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, remet en avant qu'il y a une concertation en cours. Elle reçoit à tour de rôle les 4 syndicats aujourd'hui. Laurent Berger s'est exprimé ce matin, l'UNSA également, et qui dit que la ministre est à l'écoute. Donc 15 jours pour discuter, ça pourrait changer la donne.
Damien Triomphe, merci bien. Le temps de la campagne présidentielle l'année dernière, l'ancien porte-parole Jean-Luc Mélenchon, devenu député de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, aurait été payé par la France Insoumise pour chacun de ses passages médiatiques à la télévision, à la radio. Le journal Le Monde a pu consulter ses factures, des comptes de campagne, donc réglés par l'association de campagne de Jean-Luc Mélenchon. est remboursée par l'État au titre des frais de campagne. Charlotte Lalanne, bonjour.
Bonjour à tous.
Là encore, il faut que vous nous expliquiez un petit peu le montage.
Eh bien, il s'appuie sur le statut d'auto-entrepreneur, souvenez-vous, celui-là même honni par la France insoumise, qualifié d'auto-esclavage par Jean-Luc Mélenchon. Grâce à ce statut, Alexis Corbière, enseignant de formation, placé en disponibilité de la fonction publique, a pu facturer chacune de ses apparitions médiatiques. Tarif journalier 205 euros pour, lit-on sur ses factures, la préparation et la lecture d'argumentaires, l'enregistrement et le déplacement. Alors, grâce à ce marathon médiatique, Alexis Corbière a touché 4100 euros bruts mensuels en 7 mois, payés à l'euro près, à moitié par l'association de financement de la campagne et par la société de communication Mediascope, tenue par Sophia Chikirou, directrice de la campagne. Mais sur ce point, Sophia Chikirou et Alexis Corbière ont deux versions différentes. La première affirme que Corbière était rémunéré pour le suivi des enquêtes d'opinion et l'élaboration des documents de campagne. Alexis Corbière lui ajoute le média training, et c'est une différence qui a son importance puisque les missions de média training ne sont pas remboursées par la commission des comptes de campagne.
Quelle réponse aujourd'hui de la France insoumise ?
Alors évidemment, on est un petit peu gêné aux entournures, ce d'autant que, je vous le disais, le statut d'auto-entrepreneur n'est pas vraiment en odeur de sainteté chez les insoumis. En tout, une dizaine de membres de la campagne auraient été payés grâce à ce statut. C'était pour rester flexible, reconnaît finalement le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon hier soir dans une émission en ligne de l'Obs et internautes revenant au contexte de la campagne l'année dernière.
Jusqu'au bout, jusqu'au 18 mars, nous ne savons pas si nous allons avoir les 500 signatures. Nous ne savons pas si nous allons avoir le prêt bancaire. Donc notre statut est extrêmement précaire. Ouais. Donc le statut d'auto-entrepreneur permet que je facture et qu'à tout moment, je puisse dire le mois prochain, moi et l'équipe, on arrête. D'accord ? Voilà, c'est un statut de merde, extrêmement précaire, mais qui a la particularité, quand il s'agit de mon cas, de dire que si moi j'arrête, je peux redevenir prof immédiatement. D'accord ?
C'était impossible d'être salarié, par exemple, pendant 7 mois ?
Le problème
pendant 7 mois, d'octobre 2016 à avril 2017.
Mais ça change quoi ? Vous êtes représentant syndical ? C'est quoi votre problème ?
Non, c'est une question.
Mais quelle est la question ? Ce statut permettait, je vous l'ai répété, salarié, tu dis pas du jour au lendemain tu arrêtes. Ça a toute une série de coûts. Moi, ça coûtait 0 centime si je disais, voilà, le 31 janvier, j'arrête.
Alexis Corbière qui s'estime hier soir sur Twitter, une fois encore victime, je cite, d'un acharnement injustifié des médias.
C'est une forme de double peine dans la mesure où non seulement il n'a plus aucun compte.
Charlotte Lalanne, merci beaucoup. Gilles Boyer, je reviens vers vous. Bon, je vais préciser que vous n'êtes pas payé pour venir à ce micro déjà. Plus sérieusement, vous travaillez auprès du Premier ministre. Vous voyez donc cette articulation pour parler des rapports entre les médias et les politiques et la manière dont les médias rendent compte de des situations. On voit qu'il y a parfois des attaques très violentes qui sont portées contre les médias du côté de la France insoumise, du côté du Front national aussi, mais aussi parfois du côté des rangs de la majorité. On sait que le président Macron a par exemple un peu mis à l'écart la salle de presse à l'Élysée. Est-ce qu'il y a comment vous vivez, vous, cette situation de rapport avec les médias du poste où vous vous trouvez à Matignon?
Je crois que les médias et les politiques évoluent dans le même écosystème et que d'ailleurs, aux yeux de l'opinion, souvent, leur destin est lié et l'opinion qui peut être portée sur eux est liée. Hein, la manière dont l'information se fait, la manière dont il en est rendu compte, avec parfois des jugements qui sont exprimés et qui sont tout à fait dans le rôle des médias d'exprimer un jugement positif ou négatif sur l'action des hommes politiques. On transforme ça, c'est lié à l'hystérisation générale du débat politique. On a la prétention d'interdire à ceux qui ne pensent pas comme vous de s'exprimer. Ça vaut pour les politiques et ça vaut aussi pour les médias. Je ne crois pas que nous soyons rentrés là-dedans. La France insoumise en a fait une marque de fabrique dès lors que quelqu'un exprime une opinion divergente par rapport à la doxa.
Et cette loi sur les fake news, où est-ce qu'on en est ?
Alors, elle est en train d'être élaborée avec la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. L'objectif, c'est de remédier aux cas les plus criants. Hein. J'ai dirigé la campagne d'Alain Juppé avant d'exercer mes fonctions actuelles, et Alain Juppé a été victime de la diffusion massive de fausses nouvelles.
Par exemple
Le fait qu'à Bordeaux allait être construite la plus grande mosquée d'Europe, ce qui est parfaitement faux. Il a été grimé, caricaturé en Ali Juppé. Et ce qu'on pouvait au début considérer comme une mauvaise blague a fini probablement par avoir une conséquence sur le résultat. Et c'est là ou la diffusion massive de nouvelles qui sont ostensiblement fausses. Il ne s'agit pas de remettre en question la liberté éditoriale de chacun, évidemment. Il s'agit de remédier aux cas les plus criants dans les périodes ultimes de campagnes électorales, là où l'opinion se forge.
Pour rester sur ce cas, donc là, vous pensez que s'il y avait eu cette loi, il y aurait pu avoir une intervention qui ait fait quoi ? Qui ait interrompu la rumeur, la diffusion de l'information ?
Oui, en tout cas, ce sont des situations qui méritent remède. On l'a vu dans d'autres pays, avec des puissances étrangères qui ont pour objectif d'influencer le cours démocratique dans nos démocraties occidentales. C'est en train de devenir un vrai sujet, et c'est le caractère massif, à la dernière minute, de diffusion de nouvelles qui sont fausses, diffamatoires, qui nécessitent, je crois, que nous y remédions.
Gilles Boyer, merci de vous rester avec nous, évidemment, pour la suite de cette édition. On passe à l'actualité à l'étranger avec des représailles attendues aux expulsions par Londres de membres du personnel diplomatique russe. Donc la Russie s'apprête à expulser de son côté des diplomates britanniques. C'est ce qu'annonce en tout cas le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov. Le gouvernement britannique accuse la Russie d'avoir commandité cet empoisonnement de l'ancien agent russe Sergueï Skripal et de sa fille. Mercredi, cette semaine, donc, Theresa May avait ordonné l'expulsion de 23 diplomates russes présentés comme des espions sous couverture, provoquant donc la colère de Moscou, dont on attend maintenant la réponse. Les civils continuent de fuir par milliers cette région de la Ghouta orientale près de Damas. Environ 20 000 d'entre eux seraient sortis de l'enclave ce matin, après avoir été soumis depuis près d'un mois à des bombardements intenses et subi aussi un siège qui dure depuis maintenant 5 ans dans cette région. Il y a 42 civils qui ont été tués ce matin dans des raids aériens, des raids imputables à l'aviation russe, si l'on en croit en tout cas l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Éric Biegala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Vous suivez pour la rédaction de France Culture cette situation en Syrie notamment. Bachar al-Assad est en train de gagner aussi cette bataille à l'est de Damas, de cette région de la Ghouta orientale.
Alors, il n'a pas encore totalement gagné, hein, mais les combats et surtout les bombardements aériens se poursuivent sur cette Ghouta orientale, ce faubourg à l'est de Damas. Des bombardements aériens qui, comme souvent dans cette guerre, sont largement indiscriminés, ne visent pas particulièrement une position militaire, mais un pâté de maison, voire un quartier entier, avec pour résultat de très nombreuses victimes civiles. Ce matin, c'est en particulier les localités de Kafar Batna et Sakba qui ont été visées dans le sud de la Ghouta. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui dispose d'un très bon réseau d'informateurs sur le terrain et dans tous les camps, au moins 10 civils ont été tués dans un premier bombardement à Sakba, au moins 30 dans un second, 3 heures plus tard, à Kafar Batna. Le bilan de 42 morts, rien que pour cette matinée de vendredi. Et depuis avant-hier, des couloirs d'évacuation ont été autorisés par les troupes du régime, celles qui sont à l'offensive. Résultat de quoi ? Au moins 13 000 Syriens civils ont pu quitter cette Ghouta orientale durant les seuls deux derniers jours, près de 20 000 en tout depuis une semaine.
Il y a un autre exode qui est en cours également dans le nord-ouest du pays. Cette fois, la fuite de 30 000 civils de la ville d'Afrin, qui est cible de bombardement de l'armée turque, qui veut déloger, on sait, les combattants kurdes qu'Ankara qualifie de terroristes. Et là aussi, c'est la force de l'engagement turc, en tout cas des alliés des Turcs, qui paraît devoir l'emporter sur le terrain.
Oui, à Afrin, dans le nord-ouest du pays, c'est une autre guerre qui se déroule, mais avec exactement les mêmes effets. La Turquie, vous l'avez dit, y a lancé ses troupes et ses supplétifs syriens. Ce sont des brigades rebelles, souvent islamistes, de l'armée syrienne libre. Sur le canton kurde d'Afrin, cette bataille a commencé le 20 janvier. Depuis 48 heures, la ville d'Afrin, la principale agglomération du canton, est à portée de tir de l'artillerie turque et surtout de son aviation, laquelle pilonne à la fois les faubourgs, mais aussi le centre-ville. Et comme dans la Ghouta, ce sont les civils qui font les frais de ces bombardements, par définition indiscriminés, quand ils touchent des zones urbaines. Ce matin, 18 civils ont été tués dans la ville d'Afrin. La localité n'est pas encore totalement assiégée, contrairement à ce que claironnait le président turc Erdogan il y a deux jours. Il reste une porte de sortie vers le sud, et c'est dans cette direction que sont partis des milliers de Kurdes. Près de 30 000 auraient ainsi fui vers le sud, vers les zones tenues par le régime ces deux derniers jours.
On est entré cette semaine dans la huitième année de ce conflit en Syrie. Bilan humain estimé à 500 000 morts et disparus. Mais donc, il y a aussi plusieurs millions de personnes qui ont été jetées sur les routes à l'intérieur du pays ou vers l'extérieur. Et le processus donc continue, on voit bien, avec ces deux situations sur le terrain.
Oui, entre la Ghouta orientale et Afrin, ce serait près donc de 50 000 personnes qui auraient fui leur maison en Syrie, chassées par les combats, durant les dernières 48 heures. 50 000 Syriens qui viennent effectivement s'ajouter au flot, à la marée de réfugiés ou de personnes déplacées que cette guerre a généré depuis 7 ans. 6 millions de Syriens ont dû quitter leur pays, sont actuellement réfugiés en Turquie, en Jordanie, au Liban et plus loin en Europe. 6 autres millions ont été déplacés à l'intérieur même du territoire syrien. En tout, depuis mars 2011, 12 millions de Syriens ont dû quitter leur maison, soit environ la moitié de la population du pays.
Éric Begala. Une question pour terminer la partie journal de cette édition. Bertrand Cantat a-t-il le droit de vivre sa vie ? Eh bien oui, déclare ce matin la ministre de la Culture Françoise Nyssen, 15 ans après la mort, avoir tué sa compagne Marie Trintignant. Bertrand Cantat, qui a été condamné et a purgé sa peine, voit la pression s'intensifier autour de sa tournée qui est en cours. Mardi, par exemple, à Grenoble, il a été accueilli au cri d'assassin. S'en est suivi d'ailleurs un échange très tendu entre l'ancien leader du groupe Noir Désir et des manifestants. Et puis face à la pression, donc au risque de débordement, son concert prévu aujourd'hui à l'usine à Istres a été annulé. Camille Manière, bonjour.
Bonjour.
Voilà, effectivement, qui crée une situation assez curieuse, paradoxale. Qu'est-ce qu'elle révèle, selon vous ?
Alors, elle révèle un manque de respect pour l'institution judiciaire qui serait devenue secondaire face à un tribunal médiatique de l'émotion, de la vengeance plutôt que de la justice. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le juge Philippe Laflaquière, ce magistrat qui, il y a 10 ans, avait décidé de la libération conditionnelle de Bertrand Cantat après 4 années de prison. Il s'exprimait ces derniers jours chez nos confrères de France Inter.
C'est une forme de double peine dans la mesure où non seulement il n'a plus aucun compte à rendre à justice, il y a le fait par contre évidemment qu'il a choisi de revenir dans la lumière. C'est un risque qu'il a pris mais qu'il a assumé dans la décence. Il me semble qu'il n'a rien fait pour provoquer, qu'il essaie de reprendre sa place. C'est normal, c'est sa passion et son talent et puis manifestement il a un public très fidèle.
Des propos qui indignent les militants et militantes d'oser le féminisme pour ce collectif. L'attitude même de Cantat, son choix de revenir sur scène, contrevient à la nécessaire décence qu'imposerait la réinsertion. Une attitude en soi jugée provocatrice pour la co-porte-parole d'oser le féminisme, Pauline Spinaz.
C'est vraiment sur l'exposition publique, en fait. Le fait de partir en tournée, de s'exposer autant, c'est déjà participer de l'impunité des agresseurs et c'est un mépris total pour les victimes de Cantat et de façon générale pour toutes les femmes victimes de violences.
Alors on l'entend dans cette logique, Bertrand Cantat n'est plus considéré comme un simple justiciable qui a été jugé à purger sa peine, mais une figure symbolique, expiatoire d'une dénonciation, toute légitime soit-elle, des violences faites aux femmes. Un combat exacerbé par le mouvement MeToo qui virerait à la vindicte populaire, selon le juge Laflaquière, là encore. Oser le féminisme de son côté accuse Cantat de se victimiser, d'inverser la culpabilité et la violence, ce qui serait un comportement classique d'agresseur sexuel. Le collectif appelle à nouveau à des rassemblements demain et samedi soir à Clermont-Ferrand, la prochaine étape de la tournée du chanteur.
Camille Manière, merci beaucoup. Retour vers vous. Gilles Boyer, conseiller auprès du Premier ministre. Est-ce que vous avez un avis sur la question, Cantat ?
La caractéristique de ce sujet, c'est que tout le monde a un avis, précisément, oui. Et que je suis bien en peine de savoir qui a raison, qui a tort, et je me demande s'il y a une vérité en la matière. Il a purgé sa peine. Je trouve que toute personne qui a purgé sa peine doit pouvoir, à la sortie, exercer son métier, et il se trouve que lui ne peut pas exercer son métier discrètement. C'est la caractéristique de son activité. Je trouve qu'on gagnerait tous à en parler moins. Il fait des concerts avec un public visiblement de fans qui sont fidèles. Je comprends aussi l'émotion de ceux qui considèrent que la peine était insuffisante, mais la justice est passée. Et donc, on gagnerait tous à retrouver un petit peu de sérénité autour de ce débat.
Donc, on en parle moins. Gilles Boyer, est-ce que le Premier ministre a encore le temps de lire ? On le sait que c'est un grand lecteur.
Ah oui, il a le temps de lire. Il a même le temps d'écrire des livres sur les livres. Il a écrit un livre qui s'appelle « Des hommes qui lisent » dans lequel il raconte sa passion pour la lecture.
Déjà, oui.
Oui, oui, avant de prendre ses fonctions. Il sera demain ici même sur le salon, demain après-midi. Et il prend comme une hygiène une lecture quotidienne de livres qui, en général, le projettent dans d'autres époques que celles que nous vivons.
Alors, question, qu'est-ce qu'il lit en ce moment pour s'oxygéner ?
La dernière fois que je l'ai vu avec un livre à la main, c'était un livre sur les routes de la soie.
Question de Stéphane Robert.
Vous avez aussi écrit des livres avec Édouard Philippe. Ouais, la lecture et l'écriture, c'est quelque chose, c'est un exercice très personnel. Or, ce que vous faites aujourd'hui avec votre ami, puisque c'est votre ami Édouard Philippe, vous gérez les affaires publiques, comment est-ce qu'on concilie ça ? La gestion des affaires publiques et des choses, est-ce que c'est possible déjà ?
Alors, est-ce que c'est possible d'avoir une relation professionnelle saine avec un ami ? C'est ça que vous me demandez ? Moi, je pense que oui. Tant qu'on décide que jamais le champ professionnel n'interférera dans l'amitié, il se trouve qu'avec Édouard Philippe, nous avons écrit 2 polars politiques, mais il y a longtemps déjà, il y a 10 ans, 6 ans, et que ça nous a beaucoup, l'écriture nous a beaucoup rapprochés. On s'est rendu compte qu'il y avait finalement assez peu de duos d'écrivains. C'était finalement un genre littéraire assez rare.
Est-ce qu'Emmanuel Macron, ça pourrait être un bon auteur, un bon personnage de roman, pas forcément de polar d'ailleurs.
En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que les événements des 18 derniers mois dans la vie politique française fournissent une trame incroyable pour un roman. Malheureusement, il a déjà été écrit. Et d'ailleurs, si un romancier était allé voir son éditeur avec un scénario comme celui-là, je suis à peu près sûr qu'il se serait fait retoquer.
Alors, quand même, il faudrait. Ce roman a été écrit, mais vous allez peut-être. Ça va vous inspirer. J'ai l'impression que vous étiez prêt à prendre la plume pour raconter ce qui s'est passé.
Ah non, moi j'ai toujours un livre en cours, mais on n'est pas obligé de raconter ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est qu'en matière de politique, c'est de plus en plus difficile d'être imaginatif en matière de fiction parce que la réalité a été d'une inventivité assez incroyable.
Stéphane Robert.
Vous avez été candidat aux législatives, candidat Les Républicains, et au moment où vous êtes candidat Les Républicains, votre ami Édouard Philippe, dont vous êtes aujourd'hui le conseiller, est nommé Premier ministre. Et vous me disiez tout à l'heure, j'ai vécu une situation romanesque. En quoi et comment vous l'avez gérée ?
C'est assez romanesque parce qu'au moment où je décide d'être candidat aux élections législatives, François Fillon est le grand favori de la présidentielle. C'était bien avant que ses affaires ne soient portées au premier plan médiatique. Et puis au moment où la campagne arrive dans sa phase ultime, entre-temps, mon meilleur ami se retrouve à Matignon à diriger la campagne de mes adversaires, en quelque sorte.
Oui, c'est vrai que c'est assez curieux.
Et donc il y a un ressort romanesque, voilà, qui d'ailleurs nous a plutôt fait sourire parce que c'est tellement absurde.
Alors, vous allez faire le tour du Salon du Livre, là, en quittant ce micro. Qu'est-ce que vous allez regarder? Quel stand? Comment vous allez faire pour circuler? Chacun a sa technique, hein, mais...
Oui, bien sûr. Moi, je fais ça un peu au hasard. Je vais aller sur le stand de mon éditeur Jean-Claude Lattès. Et puis ensuite, je vais faire mon petit tour. Livre d'histoire, je pense.
Livre d'histoire. Merci beaucoup, en tout cas, Gilles Boyer, d'avoir accepté de passer aussi dans le studio de Radio France,
avec
ici
plaisir.
Au Salon du Livre. Un temps variable, alternance d'éclaircies et de passages nuageux, des averses aussi sur la plupart des régions, température 9 à 18 degrés. N'oubliez pas, 17h, le magazine de la rédaction tout à l'heure, Poutine, forcément, c'est sur la campagne, évidemment, en Russie, une petite ville russe à l'heure du vote, reportage de Marie-Pierre Véraud, réalisation à Libro, présentée par Aurélie Kiefer, édition qui a été réalisée ici avec M. Léchili. Le prochain journal sur France Culture est à 18h avec Benoît Bouscarel.